Je commence comme les musulmans au nom de Dieu, Alhamdulillah, Bassalatu wassalamu ala Rasulillah, pour aller de l'avant. Mes bien-aimés frères et sœurs en humanité, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je parle de un miracle du Coran. C'est un miracle unique. Et c'est le miracle linguistique et littéraire du discours coranique. Maintenant, avant d'entrer dans le sujet, je veux vraiment discuter de ce que nous entendons par miracle. Car traditionnellement, dans la philosophie occidentale, si nous lisons des penseurs comme David Hume, il a en fait parlé d'un miracle de cette manière. Il a dit que c'est la rupture d'une loi naturelle. Il avait une objection à cela, car il a dit, regardez, les lois naturelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont juste des modèles que nous percevons dans l'univers. Ce sont des généralisations inductives de modèles que nous percevons dans l'univers. Nous prenons un ensemble particulier de motifs ou d'un modèle, et nous pensons que c'est toujours le même. Si quelque chose brise le modèle, est-ce un miracle? Non, ce n'est pas. C'est incohérent, non? Peut-être une exception. Ou peut-être que nous n'avons pas assez regardé. Le fait est que c'est une vision incohérente des miracles. Je crois que d'un point de vue islamique, la définition d'un miracle est plus logique. En islam, nous voyons un miracle comme un acte d'impossibilité. Maintenant, l'impossibilité ne se réfère pas à une logique informelle. Cela signifie qu'il n'y a pas d'explication naturelle. Quand nous avons épuisé toutes les explications naturelles pour un événement donné, prenons l'exemple de Moïse, Moussa, alayhi salam, paix sur lui. C'est semblable aux autres traditions comme le christianisme, que Moïse a parlé au Pharaon, et dans le récit coranique, Moïse a jeté son bâton. On lui a dit de le jeter, un bâton en bois. Et il est devenu serpent, mangeant d'autres serpents, les illusions, des illusions des magiciens. C'est intéressant car c'est un miracle, un acte d'impossibilité. Cela n'a rien à voir avec la rupture des lois naturelles en soi. C'est plutôt que nous ne pouvons pas l'expliquer de manière naturelle car vous prenez un bâton en bois et peu importe ce que vous faites au bâton qui est inanimé, il ne deviendra jamais vivant comme un serpent. C'est impossible, peu importe ce que nous faisons avec l'environnement naturel ou la chose naturelle que nous appelons maintenant le bâton, si nous le coupons, le tranchons, mettez du citron dessus, peu importe ce que nous faisons, il ne deviendra jamais un serpent, jamais. Si nous épuisons toutes les options, il ne deviendra jamais un serpent. C'est un acte d'impossibilité. Nous ne pouvons pas expliquer cela naturellement. C'est un signe du divin, un signe du surnaturel. C'est une vision plus cohérente des miracles. Ainsi, le Coran est un miracle. Pourquoi cela? Parce que le Coran est impossible. Parce que lorsque nous regardons les lettres finies de la langue arabe, 28 lettres dans la langue arabe, les lettres finies, les mots classiques, les règles finies, nous avons épuisé toutes les combinaisons. Produire la forme littéraire unique du Coran. Nous ne pouvons pas. Cet argument vient en fait du Coran lui-même. Par exemple, dans la sourate Baqara, chapitre La Vache, qui est le deuxième chapitre. Au 23e verset, le Coran dit: Wa in kuntum fi raybi mimma nazalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Cela signifie: si vous doutez de ce livre que nous avons révélé à notre prophète Muhammad, paix soit sur lui. Alors apportez un chapitre comme lui et appelez-vous soutien, témoin et quiconque d'autre en dehors de Dieu si vous êtes véridique. C'est un défi intellectuel. Nous savons que ce défi a eu lieu dans un certain contexte. Il est venu dans un environnement où, dans l'Arabie du 7e siècle, les Arabes excellaient dans l'expression en arabe. C'était un défi linguistique à cette époque. C'est pourquoi les divers savants, tant orientaux qu'occidentaux, apprécient que c'est un défi linguistique et littéraire pour les meilleurs qui pouvait s'exprimer en arabe. Nous savons cela d'un point de vue historique. L'historien arabe célèbre Ibn Rashid affirme que, essentiellement, à l'époque de l'Arabie, au 7e siècle, il ne célébrait que deux choses: la naissance d'un garçon. Lorsqu'un poète s'est levé parmi eux, il y avait une socialisation où l'expression de la langue, l'arabe classique, était semblable. Vous savez, vous êtes comme un président ou l'un des meilleurs dans la société. Le Coran est donc venu défier ceux qui étaient les mieux placés pour relever ce défi, car c'était un environnement où les savants, appelés linguistes arabes par excellence, étaient les plus compétents. Le Coran les a défiés et ils ont échoué. Nous savons cela car le meilleur linguiste de l'époque, Walid ibn al-Mughira, a dit « Par Dieu, cela ne peut pas être humain. Je connais les sciences de la langue. Ça ne peut pas venir d'un humain. » Qu'est-ce qui rend le Coran unique sous cet angle? Il n'est pas nécessaire d'entrer dans trop de détails, car beaucoup d'entre vous ne parlent probablement même pas arabe. Mais pour en parler, nous pourrions dire de manière très basique que le Coran redéfinit la langue arabe. Car généralement, dans la langue arabe, il existe certaines formes littéraires. Nous avons le sajja, qui est la prose rimée. Il y a le mursal, qui est un discours direct. Nous avons de la poésie qui a 16 schémas rythmiques basés sur la longueur des syllabes, appelés les al-bihar. Et nous avons un style appelé makama. La makama est une combinaison de prose et de poésie. Mais le Coran va au-delà de tout cela. Il les dépasse. Le Coran n'est pas de la poésie. On ne peut pas prendre un chapitre. Et la totalité de chaque chapitre ne correspond à aucun des al-bihar, les motifs rythmiques de la poésie. Nous savons que ce n'est pas makama, car dans la makama, il y a une différence entre prose et poésie. Elle ne se mélange pas, mais le Coran a ce mélange unique. Si nous lisons Haji Arbery, a dit que le Coran fusionne prose et poésie de manière unique. On sait aussi que ce n'est pas. Ce n'est pas un discours direct, car le Coran est riche en embellissement, rhétorique, éloquence et rythme. Nous savons aussi que ce n'est pas sajja. Ce n'est pas de la prose rimée, car la prose rimée est bien définie. En lisant Devin G. Stewart, l'arabiste et érudit, écrit dans l'Encyclopédie du Coran et d'autres ouvrages, que la prose rimée se définit par une rime à la fin et un accent. Il s'agit d'un motif rythmique fondé sur l'accent. Comme les comptines « Ba, ba, black sheep, avez-vous de la laine ?» C'est un motif rythmique basé sur l'accent, pas sur la syllabe. La prose rimée a une utilisation concentrée de dispositifs rhétoriques. Le Coran va au-delà car il contient bien plus de dispositifs rhétoriques que toute autre forme. Il descope structurellement diverses caractéristiques de la prose rimée. C'est une œuvre littéraire unique. C'est une forme littéraire unique. C'est pourquoi nous avons des experts, comme le professeur Bruce Lawrence de l'Université Duke. Dans son livre « Le Coran », une biographie, à la page 8, il mentionne « Les vers coraniques sont des signes tangibles, une manifestation de vérité infinie. Ils signifient un sens, lumière sur lumière, miracle après miracle. » Le professeur Martin Zamek des Pays-Bas a dit « Bien que la poésie pré-islamique existe, le Coran est la plus grande manifestation écrite de la langue arabe. » Le professeur Neil Robinson, dans son livre, dit que c'est un livre étonnant. Dans « Découvrir le Coran », une approche contemporaine d'un texte voilé, il a un chapitre entier sur le style dynamique du Coran. Dans la tradition arabe, cela s'appelle « iltifat », qui est ce changement de référence dans le discours coranique. Cela dépasse de loin tout autre discours arabe connu. Et il y a le révérend R. Bosworth Smith, dans « Mohammedanisme », a affirmé « Le Coran est un miracle de style pur, de sagesse et de vérité. Le point ici est qu'il existe presque un témoignage authentique venant de personnes qui ont les compétences pour analyser l'arabe coranique. Donc, c'est un miracle car les meilleurs orateurs qui savaient parler et s'exprimer de la meilleure façon possible en arabe n'ont pas réussi à défier le Coran. C'est un acte d'impossibilité. » Ce n'est pas seulement une forme littéraire unique, mais personne n'a réussi à la contester ou à la reproduire. Quand nous regardons la nature du Coran, qui est la langue arabe, et que nous explorons toutes les options, nous ne pouvons jamais créer. La forme littéraire unique du Coran rend cela impossible. Aucune explication naturaliste n'existe, donc cela est divin. Définition. C'est donc un miracle linguistique et littéraire. Maintenant, une objection est la suivante. Et Shakespeare, il était incroyable avec son style unique. Cela ne signifie pas que Shakespeare est divin ou a eu une inspiration. Je suis d'accord. Mais Shakespeare n'a rien à voir avec la forme littéraire unique. Nous parlons des caractéristiques structurelles du langage. Rime, rythme. Les caractéristiques structurelles. Ce n'est pas une question d'esthétique, l'emploi de la langue de cette façon précise, car Shakespeare n'était pas unique en termes de forme. Il utilisait le pentamètre iambique, utilisé par de nombreux autres, des érudits anglais. Il utilisait des vers trochaïques et des vers libres, utilisés par Christopher Marlowe et de nombreux autres écrivains anglais. C'est donc une objection forcée. Le Coran a une forme littéraire unique. Donc, d'un point de vue philosophique, nous savons que c'est un miracle. Alors, que signifie cela? Cela signifie que si c'est un miracle, cela provient du divin. Si c'est divin, alors ce que dit le Coran est vrai, car ce qui vient de la vérité est vrai. C'est comme un fondationalisme épistémique, ce qui signifie essentiellement que vous avez des affirmations de vérité sûre, des vérités essentielles. Tout ce qui repose sur ces vérités sera vrai. Quand le Coran dit de prier 5 fois par jour, c'est bénéfique et cela vous rapprochera de Dieu, alors c'est vrai. Si le Coran dit que nous devons interdire l'intérêt dans notre modèle économique, car cela freine la distribution de la richesse, alors nous devrions le faire, car c'est vrai. Ne vous méprenez pas, nous pourrions aussi le juger rationnellement. Mais c'est la façon la plus simple. Cela vient de Dieu, donc c'est vrai. Merci pour votre attention.